Décryptage, Marie Cazadebé.
Bonjour à tous, c'est désormais ensemble que nous décrypterons chaque jour l'actualité. Ravie de commencer cette nouvelle saison en votre compagnie. Ce lundi, toute l'équipe de décryptage vous propose de vous arrêter en Corée du Nord au lendemain du plus puissant essai nucléaire jamais réalisé par Pyongyang.
Ignorant les avertissements répétés de la communauté internationale, la Corée du Nord a réalisé un nouvel essai nucléaire. Le Japon ne peut accepter une telle attitude. Nous allons répondre de manière déterminée à Pyongyang aux côtés de la communauté internationale et notamment les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et la Russie. Je pense également que les Nations Unies doivent montrer une forte volonté de maintenir la paix dans le monde.
La réaction du Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui en dit long sur l'impact de cet essai effectué hier, il rejaillit sur toute la région et bien au-delà évidemment sur les États-Unis. Que cherche la Corée du Nord? Quelle est l'ampleur de la menace? Quel impact sur les relations régionales et internationales? Nos invités sont là pour nous éclairer. Bonsoir Pascal Daïès-Burgeon.
Bonsoir.
Et merci d'être en studio avec nous. Vous êtes chargé de mission au CNRS, ancien diplomate en Corée et auteur de La Dynastie Rouge, Corée du Nord 1945-2015, audition aux éditions Perrin. Avec nous également, mais au téléphone de Lyon, Jean-Marie Collin, vice-président d'Initiative pour le désarmement nucléaire, membre de l'ICAN France, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Bonjour Monsieur Collin.
Bonjour.
La Corée du Nord a donc procédé hier à son sixième essai nucléaire. Pascal Daïès-Burgeon, Pyongyang a-t-il vraiment franchi un nouveau cap hier?
Ah, c'est l'essai le plus puissant qui montre qu'elle persiste et qu'elle signe et qu'elle veut absolument être reconnue comme une puissance nucléaire comme les autres et avec les possibilités en plus balistiques qui sont les siennes maintenant, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer une bombe atomique sur un pays ennemi.
Est-ce que cet essai vous a surpris?
Pas vraiment, malheureusement, on pouvait s'y attendre. Tous les signes concouraient pour montrer que la Corée n'allait pas s'arrêter en bon chemin, en si bon chemin, et qu'après le tir balistique, il fallait montrer que les missiles servent à quelque chose, et donc qu'on était capable d'avoir une bombe atomique puissante, miniaturisée, qu'on puisse mettre sur les missiles.
Alors Jean-Marie Collin, selon Pyongyang, c'est une bombe H qui a été testée avec succès hier. Les autres tests concernaient a priori des bombes A. Qu'est-ce que cela change?
Alors, c'est selon Pyongyang, on est bien d'accord, c'est eux qui affirment avoir testé, réalisé une bombe thermonucléaire. Donc c'est un type de bombe beaucoup plus complexe que la bombe qui a été jetée bombardée sur Hiroshima et Nagasaki, qui nécessite d'avoir la capacité de construire une bombe A, une bombe nucléaire. Et c'est cette bombe A qui est l'allumette, si vous voulez, qui permet de décupler la force de l'arme nucléaire et d'obtenir cette fameuse bombe H, qui est notamment beaucoup plus puissante. Mais il faut rester assez prudent, je pense, aujourd'hui, parce que rien ne prouve réellement que ce pays maîtrise cette technologie qui est, encore une fois, extrêmement complexe.
Pour comprendre l'importance, l'impact d'une bombe H, on pense évidemment au bombardement d'Hiroshima au Japon. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire?
C'est difficile de comparer des valeurs de destruction. Moi, ce que je voudrais mentionner, par exemple, c'est que la France, son premier essai nucléaire en 1960 était de 60 kilotonnes, donc plus ou moins 4 fois Hiroshima, et c'était une simple bombe nucléaire, avec des guillemets sur le mot simple. Donc, plus ou moins, d'après ce qu'on peut lire à travers la presse internationale ou certains experts très spécialistes de la Corée du Nord, on parle bien de ce type de puissance. Donc vous voyez, on reste dans une bombe nucléaire un peu classique, mais très puissante évidemment. Et sachant que les bombes H les plus puissantes ont atteint, avaient généralement une capacité de destruction de 1 mégatonne, donc près de 100 fois à 1000 fois Hiroshima, sachant que la plus puissante des bombes thermonucléaires fut celle qui fut testée par les Russes, qui s'appelait la bombe Tsar Bomba, et qui était proche de plus de 50 mégatonnes.
Alors vous l'avez dit, c'est difficile de vérifier les dires de la Corée du Nord. On sait juste que l'explosion a provoqué un tremblement de terre de 6,3 sur l'échelle de Richter. Est-ce que c'est ça l'indice important pour savoir vraiment ce qui s'est passé hier?
C'est sûr que cet indice-là, assis sur l'échelle de Richter, nous montre en tout cas qu'il dispose aujourd'hui d'une capacité de conception d'un engin nucléaire de forte puissance. Donc de ce côté-ci, je dirais que ça met un terme à tout doute sur leur non-capacité à réaliser une arme nucléaire. Maintenant, ce qui reste à savoir, si c'est oui ou non, donc cette fameuse bombe thermonucléaire qui est aujourd'hui seulement détenue par la France, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Chine, puisque l'Inde, le Pakistan et Israël ne détiennent pas cette capacité. L'Inde avait tenté en 1998 lors d'un de ses premiers et seuls essais nucléaires mais apparemment cet essai n'avait pas fonctionné, donc semble probablement ne pas disposer de ce type d'arme.
Alors ce test nucléaire s'ajoute à 17 tirs de missiles de moyenne et longue portée. Comment on peut résumer la capacité de nuisance potentielle de ces tirs? Est-ce qu'ils peuvent atteindre les États-Unis? On suppose que c'est une cible.
Alors oui, mais tout d'abord, ce qu'il faudra peut-être tout simplement rappeler, c'est que finalement, Séoul se situe à une cinquantaine de kilomètres de la frontière nord-coréenne et que c'est sans doute, je dirais, de simples forces de tir massifs sur le plan conventionnel qui pourraient aussi réduire cette ville en cendres. Mmh. Donc c'est certainement là le premier risque, avant même de penser à ce qu'un missile intercontinental puisse atteindre les États-Unis. On parle toujours des États-Unis, mais... S'ils arrivent à atteindre les États-Unis, ils arriveraient aussi à atteindre Genève ou Paris, par exemple. Donc, il faut avoir ça en tête. Le deuxième élément à avoir en tête, je pense, c'est que là aussi, il y a encore quelques doutes sur la capacité réelle de la Corée du Nord à disposer pleinement d'une capacité à pouvoir à la fois mettre une ogive nucléaire sur un missile et d'avoir la capacité d'envoyer ce missile à destination finale.
Et quand on parle d'une arme nucléaire miniature, je suppose que c'est un lien aussi avec ces missiles. C'est une arme qui pourrait être transportée donc par ces missiles testés aussi récemment.
Exactement. Alors quand on parle miniature, c'est plus dans le sens de l'encombrement, si vous voulez. Plus que par la petitesse de la puissance de l'arme. Mais en tout cas, tous ces éléments, tous ces essais, ces multiples essais, comme vous avez rappelé, 17 essais depuis le début de l'année, 6e essai nucléaire, tous ces essais montrent bien que la Corée du Nord améliore à chaque fois ses capacités technologiques et nucléaires et militaires, malgré le régime de sanctions qui existe aujourd'hui. Donc il serait peut-être temps que nos diplomates, nos gouvernants et les nouveaux gouvernants français prennent de nouvelles décisions et décident de travailler autrement auprès de la Corée du Nord et auprès des Chinois principalement par un autre type d'action, notamment une vraie diplomatie active et beaucoup plus forte.
On va revenir, Jean-Marie Collin, notamment au Conseil de sécurité donc de l'ONU qui s'est réuni il y a quelques heures. Pascal Daïas-Burgeon, comment la Corée du Nord est parvenue à se constituer un tel arsenal? Est-ce qu'il est capable de le produire seul ou est-ce qu'il a bénéficié d'aide de pays étrangers?
C'est évidemment toujours difficile à dire. Ce sont des suppositions et des croisements d'informations ou d'analyse de spécialistes, mais seul, non. Il ne faut pas minorer la capacité de la Corée du Nord, comparable d'ailleurs à la capacité technologique de la Corée du Sud. Ces deux pays se sont relevés de la guerre de Corée totalement détruits et ont été capables de se relancer de manière étonnante. Mais enfin, il est certain que le Pakistan en son temps, et maintenant d'une certaine manière la Chine, sont l'objet de soupçons de la part des spécialistes. Sans eux, il aurait quand même été extrêmement difficile de parvenir à ce degré de sophistication.
On dit toujours que la Corée du Nord est l'un des pays les plus fermés au monde. C'est aussi pour ça qu'on ne sait pas de quelle aide elle a pu bénéficier.
En tout cas, parce que l'information doit toujours être filtrée, doit être analysée par les différents observateurs. Et quand on va aux meilleures sources, au fond, celles qui sont capables de lire directement, c'est-à-dire les sources sud-coréennes, elles sont toujours elles-mêmes à filtrer, parce qu'il y a toujours un peu de propagande dans ce qui est dit. Donc, c'est toujours avec des analyses un peu complexes qu'on peut avoir des hypothèses, mais jamais de vérité.
Alors, on en vient à la question centrale, Pascal Daïas-Burgeon. Pourquoi la Corée du Nord développe-t-elle tant son armement nucléaire? Qu'est-ce qu'elle cherche? Quel est son but?
Je dirais qu'elle a un but externe. Une puissance nucléaire est une puissance souveraine qui ne peut donc pas être rayée de la carte comme ça, stratégie du faible au fort. Même si le potentiel nucléaire nord-coréen reste inférieur à ceux de ses puissants voisins, la Chine, la Russie, les États-Unis. Néanmoins, on n'attaque pas un pays nucléaire comme on le fait avec un autre pays. Et d'autre part, ce sont des raisons internes. C'est un régime très dur, c'est une dictature absolutiste et l'absolutisme a besoin de légitimité et la légitimité, elle est militaire, c'est-à-dire que le dirigeant qui maîtrise et l'arme balistique et l'arme atomique est incontestable et incontesté aux yeux non seulement de l'opinion mais des cadres militaires qui composent au fond l'oligarchie au pouvoir.
Ça veut dire que les Nord-Coréens accueillent très favorablement ces progrès-là.
Ah oui, oui, ils se réunissent très souvent place Kim Il-sung en hurlant Manzé, Manzé, 10 000 ans de gloire, et il n'y a pas un soldat derrière chaque personne. Donc il y a une sorte d'exaltation expressions. Je dirais même qu'il m'est arrivé de trouver sur des réseaux sociaux du Sud des expressions assez étonnantes. Notre bombe, hein, dit-on parfois. Certains Sud-Coréens sont un peu touchés aussi hein, du fait que la Corée a la bombe atomique. N'oublions pas que la Corée a été colonisée par le Japon. Le Japon n'a été défait que par l'arme atomique. Donc le fait que la Corée possède l'arme atomique montre qu'elle a définitivement gagné contre le Japon impérialiste.
Jean-Marie Collin, est-ce qu'on peut parler de stratégie de dissuasion nucléaire dans ce cas-là? Est-ce que la Corée du Nord veut montrer ses muscles sans pour autant s'en servir?
Mais bien sûr, c'est exactement ce que font les autres puissances nucléaires. Les autres puissances nucléaires aujourd'hui ne réalisent plus d'essais nucléaires comme elles l'ont fait par le passé. Je rappelle qu'il y a eu un peu plus de 2050 essais nucléaires qui ont été réalisés entre 1945 et 1996. La France en a réalisé 210. Donc chaque essai nucléaire est une volonté d'exprimer d'abord, d'être certain de posséder la bonne équation et pour pouvoir créer cette arme nucléaire, mais aussi clairement une volonté de communication auprès de tout adversaire potentiel pour lui montrer ses muscles, comme vous venez de l'indiquer. Donc la Corée est dans cette stratégie de dissuasion, comme la France est dans une stratégie de dissuasion quand elle réalise un essai de missile M51, qui n'est évidemment pas nucléaire, qui ne dispose pas d'armes nucléaires, ou comme quand les États-Unis font des tirs de missiles. Donc tous ces États, en fait, utilisent la même stratégie. La grande question qu'il faut se poser définitivement, et c'est pour ça qu'au mois de juin dernier et juillet, il y a eu plus de 120 États qui se sont réunis et qui ont voté au sein de l'Assemblée générale de l'ONU un traité pour interdire les armes nucléaires, c'est pendant combien de temps encore seules 9 nations à travers le monde vont faire peser un risque de déflagration mondiale? C'est la question en fait qu'il faut se poser. Et c'est là-dessus, où, encore une fois, il faut revenir sur la diplomatie, il faut revenir à des choses qui sont véritables et arrêter de vouloir montrer uniquement ses muscles, surtout quand on a un régime nord-coréen qui est véritablement, qui est quand même instable.
On y revient tout de suite.
Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas les relations entre les deux Corées, mais plutôt les relations avec les autres puissances autour de la péninsule. Cela fait 10 ans que la question coréenne est discutée par d'autres pays, la Chine, le Japon, les États-Unis. Les Coréens eux-mêmes ne sont pas consultés, et ça, c'est un problème.
Mais à Séoul, vous ne vous sentez pas menacé par le Nord?
Non, pas vraiment.
Le témoignage de cette artiste sud-coréenne recueillie par notre correspondant à Séoul et qui pose la question des relations géopolitiques sous-jacentes au développement de l'armement nucléaire nord-coréen. La position des États-Unis, du Japon, de la Chine, on y vient dans Décryptage avec nos invités, Pascal Daïès-Burgeon. La Corée du Sud et les États-Unis sont des alliés historiques dans la région face à la menace nord-coréenne et les deux pays n'ont plus vraiment l'air d'être sur la même longueur d'onde. La Corée du Sud plaide pour la voie diplomatique, mais est-ce qu'il y a vraiment un dialogue entre les deux Corées?
Pour le moment, non. Hein. Depuis que la présidente Park a fermé la zone économique spéciale, pour le moment, le dialogue, c'est pratiquement zéro. Enfin, en tout cas, officiellement. Hein. Mais le président Moon, qui vient d'être élu, lui, est favorable à une relance de ce qu'on appelait la politique du rayon de soleil, qui consiste à discuter avec le Nord, qui lui paraît la seule solution. Mais les Américains ne l'entendent pas de cette oreille, qui vont implanter en Corée du Sud un système antimissile extrêmement dur, qui vise la Corée du Nord, mais aussi la Chine, et qui crée de fortes tensions dans la région. Donc la pauvre Corée du Sud n'a pas véritablement les moyens de se faire entendre dans ce dossier.
D'ailleurs, Donald Trump critique beaucoup Séoul sur son attitude. Je le cite, la Corée du Sud s'aperçoit, comme je leur ai dit, que leur discours d'apaisement avec la Corée du Nord ne fonctionnera pas. Ils ne comprennent qu'une chose. Écoutez d'ailleurs James Mattis, le secrétaire à la défense des États-Unis.
Toute menace contre les États-Unis et leur territoire, y compris Guam ou nos alliés, sera suivie d'une réaction militaire massive à la fois. Efficace et écrasante. Kim Jong-un doit prendre en compte la voix unie de tout le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous ne cherchons pas à éliminer un pays, en l'occurrence la Corée du Nord, mais nous avons beaucoup d'options pour le faire.
Alors les États-Unis, elles n'ont pas l'air de prôner la voie du dialogue. Quelle pourrait prendre la réponse des États-Unis à ce nouvel essai nucléaire?
Ça, c'est extrêmement difficile à dire. Sans doute des manœuvres conjointes ou dans l'envoi de flotte. Hein. Le président Trump avait prédit qu'il enverrait une flotte qu'on n'a jamais vue arriver d'ailleurs aux alentours du mois d'avril. Donc peut-être quelque chose de cette nature. De là, engager de véritables opérations militaires et relancer une nouvelle guerre de Corée, ça serait insupportable pour la Chine, pour le Japon, pour la région, pour le monde. Donc pour les États-Unis, la situation est très très complexe. C'est pour ça que pour le moment sur les réseaux sociaux sud-coréens, qui sont quand même ma première source, et c'est toujours la même chose, Kim Jong-un a encore une fois gagné.
Alors au Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni en urgence aujourd'hui, un projet de résolution va être discuté cette semaine, mais les États-Unis plaident pour les mesures les plus fortes possibles. On a vu que la dernière salve de sanctions, il y a un mois environ, qui réduisait les exportations nord-coréennes, n'ont pas eu d'impact.
Elles ont peu d'impact parce que tout se fait par contrebande, en fait. Les deux fleuves qui séparent la Corée du Nord de la Chine peuvent être traversés très facilement dans un sens comme dans l'autre. Et somme toute, il y a aussi des alliés de par le monde avec lesquels la Corée du Nord trafique. Donc rien n'est légal, mais ça se fait quand même. Il est très difficile d'endiguer ce flot illégal.
Ça veut dire que les sanctions, finalement, ne sont pas la solution.
On ne voit pas comment ne pas prendre sanctions non plus. Donc c'est pour ça que on est toujours un peu piégé dans cette. Il faut prendre des sanctions, elles n'ont peut-être pas toujours l'effet attendu.
Jean-Marie Collin, vous parliez tout à l'heure d'une voie diplomatique. Quelle pourrait être cette voie-là, puisque les sanctions, on le voit, n'ont pas d'impact sur la Corée du Nord?
Le problème, c'est que évidemment, il faut des sanctions, puisqu'on ne peut pas laisser un État agir en telle sorte à l'encontre du droit international. Le problème, c'est que d'une part, ces sanctions n'ont jamais été appliquées correctement. Les premiers, les Chinois, n'ont jamais réalisé pleinement les sanctions qui leur étaient demandées. Il y a toujours eu des sortes de passe-droits. C'est seulement, je dirais, depuis quelques mois, et on voit d'ailleurs, il me semble, un des porte-parole chinois a manifesté véritablement a indiqué que la Corée du Nord était dans une très mauvaise direction actuellement, donc a manifesté une réelle opposition. Mais si vous ne proposez que des sanctions à quelqu'un, à un moment donné, vous le mettez dans le coin du mur, vous le poussez à l'humiliation. Or, c'est bien déjà dans ce sens-là que ce peuple se sent, à tort ou à raison, peu importe, mais c'est comme cela que la Corée du Nord, ou en tout cas ses dirigeants, se sentent. Donc il faut tenter un dialogue, et pour avoir un dialogue, uniquement le coup de bâton, ça ne sert à rien. Donc il faut proposer autre chose. Donc c'est là-dessus que les diplomates doivent travailler. C'est difficile, moi, de vous apporter des solutions, mais on sait que les Chinois ont la clé de cette crise, et notamment l'un des grands enjeux, finalement, pour la Chine, c'est si un jour la Corée du Sud et la Corée du Nord sont réunifiées, d'avoir la certitude que jamais les États-Unis ne mettront de troupes à leurs frontières. S'il y avait une sorte de parole qui irait plus ou moins dans ce sens-là, sans peut-être réellement l'annoncer, ça permettrait déjà de déclencher quelque chose et d'ouvrir les portes à un véritable dialogue.
Pascal Daïez-Burgeon, je vois réagir aux propos de M. Collin. La Chine, qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce qu'elle cherche en fait dans cette situation? Puisqu'on l'a vu, elle a aussi signé pour des sanctions contre la Corée du Nord. Aujourd'hui, elle condamne aussi cet essai nucléaire. Alors comment elle se positionne et qu'est-ce qu'elle cherche dans cette affaire?
Évidemment, on ne peut avoir que des éléments pour analyser, mais il semble que la Chine se satisfasse parfaitement du statu quo, somme toute. C'est-à-dire que ça arrange la Chine, et pas que la Chine, d'ailleurs, que la Corée soit coupée en deux, et que le nord de la Corée, qui a toujours été sous son influence, demeure sous son influence, donc ça l'arrange parfaitement. Et, bien entendu, elle va dire qu'elle est contre les essais, que tout ça n'est pas bien, et il y a des tensions entre Kim Jong-un, qui ne s'est pas encore rendu à Pékin, contrairement à tous ses prédécesseurs, mais d'un autre côté, parfois, ça l'arrange. Et il faut bien voir que la crise arrange aussi beaucoup de monde. La Corée du Nord a une utilité, je dirais, politique, indirecte. Autrefois, en Corée du Sud, lorsque le gouvernement conservateur était au pouvoir, dès qu'il y avait un problème quelconque de corruption interne, hop, on disait « Ah, le vent du Nord se lève », c'est-à-dire qu'il y a un problème avec le Nord, et l'opinion ne pensait plus qu'à ça. On n'a pas l'impression maintenant un peu que les États-Unis jouent cela aussi, c'est-à-dire que les difficultés à la Maison-Blanche sont chaque fois balayées par l'agression nord-coréenne. Donc, bien sûr, on va condamner, on va être contre, etc., mais il ne faut pas négliger le fait que la situation actuelle arrange aussi beaucoup de monde. Elle est instable, mais bon, c'est une instabilité qui dure et qui peut être pratique pour bien des intérêts.
Pour conclure, en quelques mots, est-ce qu'il faut avoir peur de cette situation, de ces essais, de cette menace?
Alors, la peur vient des possibilités de dérive. Il y a toujours une possibilité d'accident. À la frontière, par exemple, entre les deux Corées, il y a parfois des gens qui se tirent dessus et on peut imaginer que tout dégénère. Mais s'il n'y a pas ce type de dégénérescence ou d'erreur, la situation reste en équilibre instable, mais c'est le cas depuis de fort nombreuses années. Donc, indépendamment d'une dérive ou d'une volonté soudaine du président Trump, encore faudrait-il qu'il puisse l'imposer de se jeter dans la bataille. Non, pas vraiment.
Merci Pascal Daïez-Burgeon d'avoir été en studio avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau du CNRS, ancien diplomate en Corée. Et Jean-Marie Collin qui était au téléphone avec nous, vice-président d'Initiative pour le désarmement nucléaire, membre de l'ICAN France, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et merci à Arthur Tossou qui m'a aidé à préparer cette émission et Olivier Roux à la réalisation.